nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Il y va, c'est encore d'un appel téléphonique, d'une visite, et puis pour trier son courrier. À part le montage, il ne travaille pas ici, même pas pour écrire, c'est trop froid. Un après-midi, on a sonné à la porte d'entrée. Il va ouvrir. Il est ouvert. C'est une jeune femme dans les 25 ans. Grande, mince, les cheveux blonds en chignon, genre bébé. Magnifiques yeux bleus, profonds, jambes longues. Belle femme, telle qu'on n'en voit qu'au cinéma, habillée en tailleur rouge, très élégante. Chaussures rouges et sacs aussi. Madame,
bonjour monsieur, je suis Belle Beaulieu et je me permets c'est de vous déranger parce que j'aime tellement vos films que j'avais envie de vous voir et faire votre connaissance. Cela ne vous ennuie pas?
Non, madame. Entrez, je vous en prie. Elle entre. Il l'amène à son bureau. Asseyez-vous. Elle s'assoit. Et lui s'assoit à son bureau.
Voilà, monsieur, je suis une grande admiratrice de vos films. Chaque fois qu'ils passent, je vais les voir. Malheureusement, une fois que le film est passé, il n'est plus rediffusé dans les salles. Alors il faut attendre plusieurs années pour les voir à la télévision. Je me demandais s'ils n'étaient pas en vidéocassette. Nicolas lui répond, malheureusement non. En France, les magnétoscopes sont pas en vente. Elle lui dit, c'est ridicule. Tous mes cousins en ont. En travaillant en Australie, en Arabie, des gens en possèdent. Nicolas lui dit, oui, mais malheureusement en France, on est toujours en retard à cause de la législation du monopole des ondes. Il est émerveillé par la jeune fille, si belle, et en tombe amoureux. Elle lui demande, avez-vous d'autres projets? Pas pour le moment. Vous savez, je viens de finir deux films. Cela m'a épuisé. C'est très stressant de faire un film. Il faut penser à un tas de choses. Et puis, on a peur de ne pas arriver jusqu'au bout. Travailler en équipe, c'est très pénible. Mais, et vous? Que faites-vous?
Moi, pour le moment, je ne fais rien. J'ai bien étudié pour être architecte, mais maintenant, cela ne m'intéresse plus. J'aimerais ouvrir une galerie de peinture, mais j'hésite.
Remarquez, je ne suis pas pressée, j'habite chez ma mère. Nous sommes déjà modestes, mais nous vivons suffisamment bien. Elle regarde sa montre et lui dit,
il faut que je vous quitte.
Colin lui dit, mais nous ne vont pas parler de mes films. Que vous aimez tant. Elle se lève et lui dit,
je veux m'en enfrer, mais je suis pressée.
Il lui dit, revoyons-nous alors.
Oui, je veux bien, disons dans une semaine.
Il lui demande,
où?
Où vous voudrez. Il réfléchit et lui dit, rue des Marronniers, vers la place. Nous irons au restaurant à 20h30. Cela vous va?
Oui, très bien.
Ils se voient souvent, parlent de films, vont au restaurant, cinéma, concert. Ils pensent constamment à elle. Elle est si belle. Et à force de le voir, elle se met aussi à l'aimer. Mais dans son amour, il y a de la fierté. Après le restaurant, ils sentent tous deux un désir commun de posséder l'autre. Sortant du restaurant, ils lui demandent. Vous voulez que l'on termine la soirée chez moi?
Oui, je veux bien.
Et il l'emmène chez lui. Chez lui, fait visiter l'appartement. C'est grand, clair, j'aime beaucoup. Une fois le salon. Asseyez-vous pour prendre un dernier verre. Elle va s'asseoir sur le divan. Il lui demande.
Vous voulez un bourbon, cognac,
bourbon. Et il va chercher le bourbon et deux verres. La serre. Et s'assoit près d'elle. Il a le corps qui bat très fort,
est si belle avec son tailleur rouge et ses bords noirs. Ses jambes, si longues, si fines, fines. Elle fait tourner son verre avec ses mains, ses longues et fines mains, avec du rouge aux ongles, un gros bracelet en or, une bague en or. Tout est féminin en elle. Elle se tourne vers lui et lui dit « Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Je suis gênée, j'ai l'impression de vous faire du mal. Il ne faut pas me regarder comme ça. » Il lui dit « Je n'y peux rien, vous êtes si belle. » Elle lui dit « Si vous pouvez quelque chose. » Et lui sourit et lui dit « Faisons ce qu'il faut. » Ou pour que vous vous sentiez bien, et moi aussi. » Elle se lève. « Menez-moi. »
Il se lève et l'emmène dans la chambre.
Une fois dans la chambre, elle lui dit « Voyez, c'est simple. » Il lui met les bras au cou et l'embrasse. Il sent son parfum, le corps contre le sien. Il se dégage, lui enlève sa veste de son tailleur, lui fait descendre sa jupe.
Elle va vers le lit. S'allonge. Lui, lui enlève la combinaison. Lui retire ses bas.
Deux dans le lit, sous les draps, nus. Elle a la tête sur sa poitrine. Elle lui dit « C'est la première fois que je connais le plaisir. » Il l'embrasse sur le front. Il est heureux. Ils se voient souvent, chez lui, passent la nuit ensemble. Un jour, il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire parce qu'il pense constamment à elle. Il passe des heures assis à son bureau à rêver. Puis, Une nuit, en la regardant nue dans son lit dormir, il prend peur. Il a peur de la perdre. Elle est trop belle. Cette peur demeure et gâche son plaisir car il devient de plus en plus angoissé. Petit à petit, cela l'énerve. Il se sent esclave de cet amour. Il ne peut rien faire. Cela l'irrite de ne pouvoir rien faire et de ne penser qu'à elle. À force de tourner en rond dans son bureau, de ne pouvoir rien faire, l'irritation se transforme en haine. Il se met à chercher des imperfections à sa beauté. Durant son sommeil, il la regarde. Mais rien. Puis, il lui demande au lit, « As-tu des amants ?»«
Non, je n'ai que toi. »
Il se demande si elle dit vrai. « Ne peut pas être aussi parfaite. C'est impossible. » Il devient insupportable. Il pose tant de questions. Elle, surprise de ce changement, lui demande,
« Que se passe-t-il ? Qu'ai-je fait ?»
Il lui répond, « Rien, malheureusement, rien. » Ce qui veut dire que je suis toujours sous ton emprise. Votre perfection doit bien avoir un point faible.
Elle lui dit, je ne comprends pas.
Il lui dit, laissez. Lorsqu'elle dort, il se demande à quoi elle rêve, avec qui elle est. Elle fait tout pour lui plaire, lui dit à toutes ses propositions, et le plus possible ensemble avec lui. Essaye de lui plaire au lit. Comme elle le sent crispé, elle n'a plus de plaisir et fait semblant d'en avoir pour lui faire plaisir. Cela lui donne le cafard. Elle devient mélancolique, mais le lui cache. Joue les gens joués. Lui trouve des défauts et une minute plus tard, ils disparaissent pour devenir des qualités. Un matin, en se réveillant, il se trouve complètement fou et se dit qu'elle est merveilleuse, que c'est son esprit qui est détraqué. Il décide pour guérir de cette folie et se faire pardonner de partir en vacances avec elle. Elle lui dit,
« Oui, cela nous fera du bien. J'en suis très heureuse. Partons le plus vite possible. Je vais prévenir ma mère. »
Il visite les îles du Pacifique. Le voyage au changement de climat leur fait du bien. Il la trouve de plus en plus belle. Puis, petit à petit, cette beauté lui fait peur. La peur de la perdre. Il se dit qu'il ne pourra plus jamais vivre sans elle. Le désir de mort lui revient. Soit sur le bateau après le dîner, il reste à regarder la mer. Elle le trouve taciturne.
Qu'est-ce qui ne va pas ? Ai-je fait quelque chose ?
Il lui répond, non, tout va bien. Il a l'impression d'être envoûté par elle. Il étouffe, il ne voit qu'elle, ne pense qu'à elle. La nuit, il ne peut dormir, car il passe son temps à le regarder, hypnotisé par ce corps si parfait.
l'après-midi, ils ont accosté dans une île. D'un coup de tête, il lui dit, « J'ai marché un peu seul. » Elle le voit, surprise, s'éloigner en courant. Là, d'être seul, se sent libre, cela lui fait du bien. Il peut enfin souffler, ne penser à rien. Il se promène sur le quai. D'elle, il ne pense qu'à la posséder, à être en elle, pour ne former qu'un. Comme cela, elle ne peut pas partir. Cette fièvre qu'elle lui donne l'irrite et s'aperçoit qu'il était mieux seul avant de la connaître. Mais elle l'est toujours, il ne veut pas la perdre. Alors malgré lui, il devient nerveux, il a envie de la caresser. Il en a assez de ses caresses auxquelles il ne peut se satisfaire. Il veut mourir, décide de se donner la mort pour être en paix. Une fois mort, il n'aura plus besoin d'elle. De la mer, dans leur chambre, la porte-fenêtre qui donne sur le balcon est ouverte. Ça sent l'eau, l'air frais de la mer, l'odeur de liberté. Elle se prépare pour la nuit. Il sait que ce sera une nuit comme les autres. Il s'enivra de son corps, il le tiendra serré contre elle. Avec son charme, il agira comme un aimant. Il sera pris dans ses filets. Il sera plus lui-même. Sa vie lui appartiendra plus. En voyant sa chemise de nuit blanche transparente, montrant son corps si parfait, il se sent pris par son charme. Mais l'air frais, l'odeur marin, le rappelle son besoin de liberté. Il se couche en quelques secondes, il panique et court se jeter du balcon. Trou noir. Il se réveille. Dans une chambre d'hôpital. À ses côtés, elle est là. Il lui demande « Qu'est-ce que j'ai ?»«
Tu as la jambe dans le plâtre. C'est pas trop grave. Ta chute a été freinée par le haut vent de l'hôtel. Pourquoi tu fais ça ?»«
Mon amour pour toi était trop fort. J'avais l'impression d'étouffer.
Je crois qu'il vaudrait mieux si nous quittions.
Un autre retour en France. »
Elle lui dit
« Je ne comprends pas. Tu m'aimes, je t'aime et tu veux me quitter. »
Il lui dit
« Et toi j'étouffe, j'ai l'impression d'étouffer. Ta gentillesse me met mal à l'aise parce que je me sens pris, envoûté. Je ne peux penser à rien d'autre.
Je ne comprends pas. Tu devrais voir un médecin. »
Il lui dit « Il vaut mieux que nous quittions. »
Elle soupire et lui dit
« Je t'aime et cela me fait mal que tu me rejettes. »
Il lui dit « Il ne faut pas.
Puis tu auras de beaux souvenirs et nous pourrons peut-être rester amis. »
Elle lui dit
« Quant aux souvenirs, ils seront un peu tristes, surtout pour ces derniers temps. Quant à rester amis, je ne veux pas. » Peut-être n'aimes-tu pas assez les femmes,
ou qu'elles te font peur. Elle pleure. Il lui dit,
il y a peut-être de ça.
Elle lui demande, que faisons-nous?
Rentrons.
Une semaine plus tard, ils ont pris l'avion pour la France avec un pied dans le plâtre. Elle essaye d'être aimable et veille sur lui. Arrivée à Paris, elle décide, avant de se quitter, de passer quelques jours dans la capitale en bons amis, sans rapport sexuel. Prennent une chambre dans un hôtel près de la place de l'Étoile et passent une semaine bons amis. Leurs relations se détendent. Ils vont au théâtre, cabaret, restaurant. À cause de sa jambe, il ne peut faire les musées. Avant de quitter Paris, il est allé chez Cartier lui acheter un magnifique bracelet en or. Ils ont passé leur dernière soirée au restaurant et au retour, dans leur chambre, il lui a donné le bracelet.
Oh merci, mais c'est trop beau.
Pourquoi ? Il lui dit. Pour te prouver ma reconnaissance et mon amour. Elle est émue, l'embrasse sur la joue et lui dit.
Pourquoi veux-tu que nous nous quittions,
puisque tu m'aimes tant?
Cela vient sûrement de moi. Je suis certainement fou.
Jamais je ne retrouverai une femme comme toi. Elle lui dit.
Alors?
Il lui dit.
Non, je ne suis pas assez fort pour le supporter. Cela me fait peur.
Parce que tu n'as pas l'habitude du bonheur?
Il lui dit.
C'est trop fort pour moi. Elle l'embrasse. Elle lui dit,
j'attendrai que tu sois plus fort ou que tu guérisses.
Ils ont passé la nuit à lancer tous deux. Puis, on prit le train pour Paris, pour Lyon. À Lyon, le lendemain matin, ils ont pris un taxi. Ils la raccompagnent jusqu'à chez elle. Se sont une dernière fois embrassés, enlacés. Elle sentit son odeur. Les jours passent. Sa jambe guérit, c'était pas très grave. Il n'est plus excité par son amour,
à l'esprit libre, mais n'a pas de projet de film. Un matin, il reçoit une lettre de sa mère qui lui dit que son père n'est pas bien. Il va voir son père, c'est sa mère qu'il reçoit au salon. Elle lui dit, ton père a eu une attaque, est-ce grave ?
Il s'en est bien sorti, mais il faut qu'il se repose.
Où est-il ?
Dans sa chambre, viens le voir.
Ici sa mère, en sortie du salon. Elle le mène au premier. Entrez. Ils entrent.
Le père est assis dans son lit avec des paperasses sur ses genoux.
Oh, c'est toi, Nicolas. Entre. On va voir le grand malade.
Nicolas et sa mère s'approchent du lit. Se penche pour l'embrasser. La mère lui dit,
tu es encore avec tes papiers. Tu sais que tu ne dois pas travailler.
Et qui le fera?
Fais-toi remplacer.
Par qui? J'ai personne.
Nicolas lui dit, si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Le père lui répond,
tu ne sais rien faire.
Nicolas ne répond pas. Le père lui dit,
laisse-moi maintenant, j'ai affaire.
La mère hausse ses épaules. Et ils sortent de la chambre. Ils retournent au salon. Une fois au salon, ils s'assoient.
J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur de vieillir. Je nous vois, ton père et moi, traînant d'une pièce à l'autre. Je me regarde constamment pour voir si je n'ai pas changé.
Nicolas s'approche d'elle, lui prend les mains et lui dit,
mais non, maman, tu n'as pas changé.
On a frappé à la porte. La mère dit,
entrez.
Entre la sœur. Elle va vers eux.
Bonjour Nicolas. Ils s'embrassent. Elle lui demande, comment vas-tu?
Ça va mieux, j'ai eu un petit accident, mais... Ma jambe était dans le plâtre, mais maintenant ça va, et toi?
Oh, moi, ça va, c'est père. Il lui dit, oui, je sais. La mère se lève et leur dit,
je vous laisse, j'ai affaire.
Et elle sort de la pièce. Le frère et la sœur s'assoient.
Elle soupire et lui dit, l'ambiance à la maison n'a pas été drôle. J'aimerais partir, moi, mais je ne peux pas les laisser seuls. J'ai l'impression que je vais devenir une vieille fille. Je vais partir loin et puis j'ai pas pu. J'ai l'impression que je vais devenir une vieille fille.
Il lui dit, tu n'en as pas l'air, tu es bien trop jolie et jeune.
Et puis père va se rétablir et tu pourras mener ta vie.
Elle lui dit, toi tu as de la chance, tu vis chez toi.
Il lui répond, peut-être ne suis-je pas plus heureux que toi.
Il faut que je te laisse.
Il se lève, elle lui demande, tu reviendras?
Oui, je reste à Lyon.
Il l'embrasse.
et la quitte.
Nicolas a une visite chez ses parents, retrouve Denis. Il est ébloui par sa beauté. Mais cette beauté le rend mélancolique et se dit qu'elle n'est pas de ce monde. Il est trop beau pour ce monde. Son sommeil, il a une vision. Voit son frère mort et planer au-dessus de lui. Il se réveille en sueur. Il a de l'angoisse, se dit que son frère est en danger. Lorsque le lendemain, il voit son frère seul au salon, il lui dit:
fais attention à toi. Denis lui demande:
pourquoi?
J'ai peur pour toi.
Denis lui demande: je ne comprends pas.
Nicolas lui répond:
moi non plus, mais je sais, c'est que tu es trop beau pour ce monde.
Denis sourit. Nicolas l'embrasse sur la joue. Elle lui dit: ne cherche pas à comprendre. C'est comme ça. Garde-toi bien.
Denis pense que son frère est mélancolique à cause de l'ambiance de la maison. C'est vrai que la maladie du père rend la vie triste. Le père a souvent le cafard et a peur de la ruine. Seul Denis reste serein. La mère demande à son fils:
reste pour aider ton père.
Nicolas s'en sent pas le courage. Il aurait l'impression d'étouffer. Il dit à sa mère:
j'ai ma vie à faire. Je ne veux pas me laisser prendre par les peines des autres, parce qu'elles deviendront miennes.
La mère lui dit: tu n'es qu'un égoïste.
Il lui dit: peut-être, mais je vivrai.
Et puis, je suis toujours là pour vous aider, mais ne me demandez pas de vivre avec vous ou de travailler avec père.
C'est pour vous que je le fais. Je vous deviendrai insupportable.
Sylvie, qui est près d'eux, dit à sa mère:
moi aussi, je veux partir.
Sa mère lui dit:
il n'en est pas question.
Et pourquoi?
Parce que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas rester seule avec ton père. J'ai besoin d'aide.
Et moi d'air.
Sa mère lui donne une gifle et lui dit:
cela suffit.
Sylvie sort de la pièce en claquant la porte.
La mère dit à Nicolas:
c'est ta faute. Tu lui donnes le mauvais exemple.
Ce n'est pas vrai, mère. Et puis, je suis largement adulte et j'ai un métier.
La mère ou ses épaules lui dit:
tu parles d'un métier. Tu passes ton temps à voyager avec des femmes. Et quelles femmes?
Il lui dit furieux: qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie?
Si tu crois que je ne lis pas les gros titres de France Dimanche ou de Match,
lose les épaules et lui dit: vous vous abaissez à critiquer ma vie par l'intermédiaire de ces titres?
Il suffit qu'un journaliste me voie avec une personne pour dire que nous avons une liaison.
La mère lui dit:
est celle avec qui tu as voyagé et ton accident.
Il ose les épaules et lui dit, c'est pas ce que vous croyez.
Elle lui dit, oui, je sais, mais tu préfères cette vie à la nôtre. Elle est plus excitante.
Colin lui dit, mère, je vous en prie, laissez, je m'en vais. Je reviendrai lorsque vous serez repris vos esprits.
Il lui dit encore, celui qui est en danger, c'est pas celui que tu crois. Denis est trop beau pour ce monde.
Elle lui dit,
tu cherches à me faire fort. Denis est en bonne santé. Il est très sage. Il ne fera jamais de peine, lui. Pas comme toi. C'est pas lui qui nous laissera.
Colin lui répond, vaudrait peut-être mieux.
Je te quitte, mère. Je pense à vous constamment, mais tu comprends, c'est que j'ai ma vie, mes affaires à m'occuper.
Elle lui dit,
faisons donc plus partie de ta vie.
Il lui répond, si bien sûr, mais je dois aussi penser à mes affaires. Écoute, vous êtes le centre de ma vie, mais je dois m'occuper du reste aussi.
Tu ne dois pas me voir partir comme un fils indigne, mais comme un fils à qui l'on peut penser.
Il embrasse sa mère
et quitte le salon.
Dans le hall d'entrée, il retrouve sa sœur et
il lui dit, dès que père ira mieux, tu viendras travailler avec moi. Tu taperas mes scénarios pour commencer.
Elle l'embrasse et lui dit,
merci, tu quittes Lyon?
Oui, je vais à Paris me changer les idées.
Je vais habiter un appartement loué pour écrire tranquillement.
Puis, il va embrasser son père et Denis.
À Paris, Nicolas a loué un appartement au Crocadéro. Le propriétaire lui a dit que s'il voulait, il pouvait l'acheter. C'est dans un immeuble neuf, grand, luxe, fait de marbre et de verre. Au dernier étage, un F4. Grande pièce, salon, salle à manger, bureau, salle de projection et montage et chambre. Il a acheté des meubles modernes, genre classique, marbre blanc.
Il a décidé, c'est de travailler pour oublier tous ses ennuis, pour rattraper le temps perdu. Il cherche un sujet simple qui soit dans l'air du temps. Un jour, il y a une expulsion. Le squatteur qui se termine par une manifestation de soutien, voit que la police s'est fait évacuer les gens et les manifestants sans or. Nicolas a assisté à tout ça par hasard. Puis, il va faire un tour dans le quartier avant de rentrer chez lui et retourne à la rue où étaient les squatteurs. Il a soif, il va rentrer dans un café. Là, il voit assis à une table deux jeunes. Un dans les 17 ans, très beau, grand, mince, les cheveux coupés courts, châtains, visage fin, yeux bleus profonds, habillé d'une chemise blanche et d'un jean bleu. L'autre, qui est en face de lui, doit avoir 10 ans de plus, dans les 25 ans, 27 ans, plus petit, cheveux noirs, courts, lunettes, bouche pulpeuse, habillé de noir, très quelconque, le jeune garçon demande. Comment ça s'est passé à la manif? L'autre lui dit. Nous avons été poursuivis par la police, en civil, jusqu'au café. Les flics sont entrés dans le café et ont tabassé tout le monde.
les gens ont été obligés de se cacher dans le réfrigérateur. Moi, j'ai réussi à sortir avec un copain. Les flics nous ont vus, nous ont couru après et nous sommes réfugiés dans une allée. Je lui dis, mais c'est illégal. Je lui dis, si tu crois que la police s'occupe de ça, Cola est furieux, car il sait que l'autre ne dit que des mensonges. Il a envie de crier. C'est faux. Que l'autre dit ça, c'est pour que les jeunes puissent se mettre à haïr la police et la société. Il se sauve un peu gêné d'avoir dit des conneries. Mais il a réussi à introduire dans le jeune son venin contre la société. Le jeune garçon finit son verre et part. Cola est mal. Il se dit que l'autre et ses semblables ruinent l'avenir des jeunes gens en leur empêchant de faire une place dans la société, en les mettant à ras les pâquerettes, en leur donnant la haine pour qu'ils soient toujours incontestataires et créent des troubles dans la société. Ils se disent de gauche et font tout le contraire pour les sortir de la société. C'est un non-sens. Car ni gauche, ni communisme, commune, communion, ensemble, socialiste, social, société. Gauche égale ensemble. Dans une société, se sentir bien au milieu des autres. Faire communion avec les autres. Et eux font le contraire avec leurs squats, leurs échanges cailloux, leurs drogues, etc. Tout ça, pour sortir les jeunes de la société, et toujours être contre tout, le système, comme ils disent. Nicolas sort du café.
Et à 25, c'est bon pour les Olympiades. On va pas au lycée, c'est ce qu'on est.
Il sort et se dit qu'il va écrire une histoire où le jeune sera le héros. Arrivé chez lui, Nicolas se met à écrire. Un jeune homme revient du manif pour les squatteurs. Il a 17 ans, il est très fier d'avoir fait un acte politique. Cela lui démontre qu'il est entré dans le monde des adultes. Il entre dans la radio. C'est une petite radio où il est animateur bénévole, petite radio Anard. Il est entré à la radio parce qu'il sait que certains animateurs sont allés à la manif. Après une entrée à la radio, le jeune homme voit un animateur qui a 10 ans de plus que lui. Il est politiquement engagé. Comme il est plus vieux que lui, le jeune garçon le respecte et croit en lui. Il demande comment s'est passé la manif parce qu'il n'a pas pu rester jusqu'à la fin. L'homme, un grand con, lui dit mal. Ils ont été poursuivis par la police jusque dans un bar. Là, ils ont été tabassés. Des manifestants ont même été obligés de se cacher dans un frigo. Ce truc sonne faux. On dirait un mauvais scénario de BD. Je lui dis, mais ce qu'a fait la police, c'est interdit. Le vieux lui dit qu'il y a beaucoup de choses que la police fait et qui sont interdites.
Le vieux gêné se tourne en courant. Un autre animateur est entré à la radio.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dans cette 23e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.